Salut!
Donc Fred, moi je t'ai connu par un bouquin qui est sur le growth hacking. Donc je suis très content que tu viennes parler dans un podcast sur la vente. Aujourd'hui, on va pas vraiment parler de ce sujet, quoique on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens en ce moment. Mais avant ça, je vais te demander de te présenter, d'expliquer aux auditeurs pourquoi ils devraient te connaître.
Alors, bonjour à tous et merci de m'inviter sur ton podcast. En fait, c'est très simple. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le marketing. Et comme j'ai une double activité, tu vois, je suis salarié et consultant. J'ai mon blog, je fais un peu de formation, je suis prof aussi dans quelques écoles de commerce. Et donc, en fait, le fait d'avoir cette double activité-là m'oblige à faire quelque chose qui est essentiel, c'est passer à l'action. Et je pense que c'est la grande force, et c'est ce qui m'a vraiment fait tilter lorsque le concept de growth hacking est arrivé des États-Unis en France, c'est cette notion d'efficacité maximale, essayer d'aller à l'essentiel. Et souvent, en fait, ce que les gens me disent, mais comment tu fais pour faire tout ça? Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors, bien sûr, c'est une gestion de son temps, etc., etc. Mais c'est aussi cette philosophie growth hacking, de dire plutôt fait que parfait, quitte en fait à améliorer plus tard. Et ça, en fait, c'est vraiment essentiel. Et je pense que les commerciaux, de plus en plus, et même tous les gens qui sont dans la vente, vont devoir aller sur cette philosophie-là. C'est peut-être utiliser des petits hacks, des petites astuces pour faire la différence. Et parfois, ça se joue à très peu de choses. Et également, au niveau de la vente, on voit que je trouve la vente, c'est quand même beaucoup modernisé. Il y a 10 ans, 20 ans, la caricature du commercial, hein, tu sais, c'était le beau parleur, c'était le carnet de commandes, la voiture, allez hop, j'appelle les clients, etc. Maintenant, en fait, la vente, c'est beaucoup modernisé. Et comme on disait, un des piliers du growth hacking, c'est vraiment de mesurer l'effort. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui marche pas, est-ce qu'on voit la rentabilité? Et dans la vente, de plus en plus, je vois ça. On voit le taux de concrétisation. Tu as des outils comme Mojo qui permettent en fait d'écouter les conversations, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc. En plus, tu as plus en plus de process. Le métier de commercial est extrêmement processisé versus ce qu'il y avait il y a quelques années. Maintenant, quasiment toutes les boîtes ont un CRM, ce qui structure l'activité commerciale avec moins de créativité, plus de structuration. Et je trouve que tu as même une génération de vendeurs, de commerciaux qui sont beaucoup plus structurés et dans la ma manière de travailler. Et donc, voilà, cette démarche de growth hacking, ça s'applique forcément à la vente. Alors, c'est quand même plus des techniques de marketing et génération de prospects, mais c'est une philosophie et des idées qui peuvent s'appliquer. Et c'est pour ça, en fait, que le bouquin, le growth hacking, a été, je crois que c'était en 2021 que j'ai été choisi par les DSF, des dirigeants commerciaux de France, je pense que beaucoup de gens connaissent, et qui, en fait, ont choisi le bouquin comme un des bouquins de l'année sur la vente, parce qu'en fait, ces méthodes-là d'efficacité peuvent être appliquées dans tous les domaines, dont la vente. Et là, en l'occurrence, le bouquin, quand j'avais sorti à l'époque, c'était surtout sur les techniques classiques de génération de leads, de faire appel à des assistants offshore. Ça se fait assez peu, mais pourtant c'est important. Ça peut se déléguer, on peut aussi déléguer en France, bien entendu. Et là maintenant, j'ai ajouté donc un nouveau chapitre, c'est l'intelligence artificielle, et en particulier le ChatGPT qui a fait qui a fait une révolution et qui vient changer le métier des marketeurs, mais également de toutes les personnes qui produisent du contenu, dont les commerciaux.
Très bien, écoute, tu as introduit le sujet du jour, l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'on en parle énormément, c'est normal, c'est un outil révolutionnaire. Par contre, je n'ai pas encore vu de sujet vraiment dédié à la vente et comment utiliser ça dans la vente. Je vois très bien comment utiliser ça dans du copywriting, peut-être dans d'autres domaines, mais ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de donner des exemples pour les commerciaux qui nous écoutent, les directeurs commerciaux et les entrepreneurs. Avant ça, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet de ChatGPT? Tu nous as dit que tu t'y étais intéressé récemment. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, c'est un sujet qui t'anime aujourd'hui?
Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'en fait, chez Eloquent, je suis product manager bot, donc tout ce qui est chatbot, callbot. Et donc, c'est un sujet qui techno qui est important. Et tu vois, ça fait quasiment 7 ans que je suis sur le sujet ouais, 5 ans, 6 ans que je suis sur le sujet des bots. Et j'ai vraiment vu un gap passer avec le chat GPT. Parce qu'en fait, autant en fait, les technologies étaient très basées sur des mots-clés. C'était vraiment de l'entraînement. Moi, je disais que les bots, c'était un peu comme des enfants de 6 ans. C'est-à-dire que tu leur disais quoi faire, ils font le truc, mais si ça sort de là, c'est pas possible. C'est comme si tu disais à un enfant de 6 ans, bon, allez, ramasse les affaires, ramasse la vaisselle sur la table, mais là, dans la vaisselle, si tu dis ça à un gamin de 6 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les assiettes, il va mettre dans la vaisselle, il va pas se rendre compte qu'il y a de la nourriture. Il va dire, non, mais la nourriture, faut l'enlever là, tu vas pas laisser la bouffe dans le truc. Là, maintenant, en fait, avec le ChatGPT, on arrive grosso modo à un étudiant de 18 ans. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui connaît bien les choses, pas mal de choses, bon, qui peut faire des petites erreurs, mais qui est quand même relativement autonome. Si tu lui donnes les bonnes consignes, ce qu'il faut exactement faire, et ben en fait, grâce à sa culture générale, grâce à ce qu'il sait faire, grâce à son pouvoir d'autonomie, et ben il est capable de faire quelque chose de correct. Donc grosso modo, on arrive, je dirais pas à un Jarvis comme à Iron Man, mais on arrive quand même à avoir un assistant qui est de bonne qualité. Vraiment, faut se dire, c'est quelqu'un de 18 ans. Il faut tout lui expliquer, bien lui expliquer les trucs et vérifier qu'il n'a pas fait de conneries. Mais en fait, c'est vraiment ça. Et le ChatGPT, il faut vraiment le prendre comme ça, comme une espèce de couteau suisse. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est des usages qui sont un petit peu naissants et tout le monde tâtonne un petit peu. Et je pense que d'ici quelques mois, ça va encore augmenter. Mais tu vois, par exemple, on a discuté juste avant, les dernières évolutions du ChatGPT qui sont de pouvoir coller des URL. Et pouvoir, par exemple, on en a discuté il y a 2 secondes, résumer une vidéo YouTube, tu lui donnes une URL, tu dis, tiens, résume-moi cette vidéo YouTube en 1000 mots, en 500 mots, c'est assez malade. Mais surtout, en fait, ce qui est mieux avec le ChatGPT, c'est qu'il ne se contente pas de faire juste, écris-moi un résumé, etc. Il peut te faire quelque chose qui est vachement plus intelligent que ça. C'est-à-dire que tu peux lui dire, tiens, prends cette vidéo-là, YouTube, tu vas ensuite en faire un résumé. Okay. Bon, ça, c'est le truc un peu basique, ce qu'un assistant était capable de faire. Mais tu peux lui dire, et tu me transformes ça en publication LinkedIn de 1000 mots avec des emojis et avec une méthode d'accroche de type AIDA, par exemple, ou avec une méthode pas à pas, ou racontant une histoire. Enfin, racontant une histoire, c'est pas très bon. Mais en tout cas, tu peux lui dire, mais crée-moi, moi, ce que je dis toujours, c'est au ChatGPT, pour que ça marche bien, c'est crée-moi une publication LinkedIn en mode conversationnel en utilisant des emojis. Et là, en fait, en mode conversationnel, c'est exactement le mode qu'il faut utiliser sur LinkedIn, c'est-à-dire que tu vas poser des questions. Et au lieu de faire, ben voilà, je fais un résumé de cette vidéo, il va te dire ben, comment faire pour faire ceci, cela, ou tiens, tel sujet, etc., etc. Donc, en fait, c'est vraiment une autre dimension. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste lui donner des ordres, il peut être capable de créativité. Et ça, c'est assez intéressant quand on est commercial, puisqu'en fait, ce petit assistant personnel, sur des sujets assez génériques, eh ben, il peut rendre de fiers services.
Ouais, il y a plein de questions qui me viennent en tête avec ce que tu viens de dire. Première question, tu as parlé de, et on en a parlé un peu en off, de cette version payante ChatGPT 4 qui te permet justement de faire ce que tu viens de dire, de coller des URL. Tu la conseilles cette version même aux gens qui commencent ou il vaut mieux d'abord bien poncer le ChatGPT 3 avant de passer à la 4 ou...
Alors, la question est excellente parce qu'en fait, jusqu'il y a à peu près allez, 3 semaines, je t'aurais dit non, la version gratuite GPT 3.5, ça suffit largement parce que au niveau de la qualité des textes, c'est kiff-kiff. C'est en fait le ChatGPT est meilleur sur tout ce qui est scientifique, développement, équation, problème et aussi relance. C'est ça qui est aussi intéressant avec le ChatGPT, c'est que tu peux lui dire fais un truc. Et ensuite, par exemple, tiens, tu dis, résume-moi cette vidéo YouTube. Ou en tant que commercial, tiens, voilà, on va dire qu'en tant que commercial, tu lui files une transcription d'un rendez-vous. Et tu lui dis, fais-moi un résumé de cette transcription. Bon, là, c'est le truc un peu basique. Mais tu peux lui dire, bon, maintenant, sur la partie numéro 4, là, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui étaient les grandes idées, qu'est-ce qu'on peut ressortir, etc., etc. Et tu peux dialoguer avec lui. Et par exemple, pour une vidéo YouTube, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, bah, tiens, résume-moi en 500 mots, 1000 mots une vidéo. Bon, ok, maintenant, résume-moi un petit peu les grandes idées, quels étaient les conseils qui étaient mis là-dedans. Alors, faut quand même faire un petit peu attention parce que ce n'est pas non plus la baguette magique. Parce qu'une fois, je lui ai dit dans une interview, je ne me souvenais plus trop, ça avait duré comme notre conversation, ça va durer un certain temps. Et je lui ai dit, tiens, à un moment donné, on a parlé de tel sujet. Je lui ai dit, dis-moi quels sont les conseils qui ont été dits pour améliorer l'expérience client dans tel domaine, là, là, là. Petit chat GPT m'a sorti un truc et il me dit, je me souvenais pas avoir dit tout ça. Et en fait, il avait inventé un truc. Et je dis, oh merde, c'était pas ça. Donc en fait, faut quand même se méfier un petit peu de ce qu'il dit et toujours avoir un petit esprit critique. Parce que, comme je disais, c'est un assistant de 18 ans. Et parfois, il peut s'emporter un peu sur certains sujets. Donc ça, c'est assez magique. Et par exemple, tu as un usage très simple. Et là, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec une proposition commerciale. Et ça, en fait, tu sais comme moi que quand tu es commercial, quand tu fais des propales, parfois, en fait, tu dois mettre de la tartine parce qu'en fait, les gens veulent un petit peu avoir des détails, les rassurer. Alors, de plus en plus, hein, nous, on voit pour les propositions commerciales, on part plutôt sur une PowerPoint qui permet d'avoir des choses plus digestes, plus faciles, que du Word de 150 pages, mais bon, voilà, il y a parfois besoin d'avoir du contexte. Mais donc, en fait, parfois, on te demande de donner, par exemple, des process. Quel est le process pour, par exemple, organiser une réunion, faire des REX, faire des déploiements, des machins et tout ça. Et c'est vrai que si tu dois solliciter les personnes du métier de chez toi, quand le document n'est pas présent, eh ben, c'est compliqué. Avec le ChatGPT, tu peux dire, bah, tiens, est-ce que tu peux me donner toutes les grandes étapes pour, par exemple, déployer un CRM, déployer tel truc ou faire un audit de machin, blablabla. Et il va te donner une trame qui peut être véritablement utilisable. Et là, encore une fois, tu peux même lui dire, tiens, sur cette étape numéro 2, est-ce que tu peux me détailler un petit peu plus, etc. Et donc, ça, c'est un gain de temps qui peut être assez intéressant quand tu fais des longues propales et que tu n'as pas la documentation sur toi et que c'est des sujets un petit peu génériques. Alors, bien entendu, ça ne marchera pas sur des sujets grand public, hein, mais sur des discussions classiques enfin, discussion sur des contenus classiques comme de la gestion de projet, de la mise en place de solutions, etc. C'est assez pas mal. Même, tu vois, tu peux lui dire, bah, tiens, on a une réunion. J'ai une réunion la semaine prochaine avec des personnes. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de faire un bilan de post-lancement. Et quand tu dis bilan de post-lancement, alors j'ai pas eu encore la réunion de crise, mais quand tu fais un bilan post-lancement, tu dis, bah, tiens, qu'est-ce que je vais mettre dans cet ordre du jour? Et en fait, tu peux dire, bah, est-ce que tu peux, au ChatGPT, est-ce que tu peux m'écrire un ordre du jour avec d'une réunion de 30 minutes ou de 40 minutes ou de 5 minutes, en fait, tu dis ça. Et en fait, il va te dire, bah, introduction, présentation, retour d'expérience, bilan, machin, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, c'est vachement utile parce que ça donne une trame et après, tu personnalises. Donc, tout ça, en fait, toutes ces fonctionnalités-là que je viens de t'indiquer, c'est des fonctions qui sont tout à fait natives et gratuites avec le chat GPT en version gratuite, la version 3.5. Alors, peut-être que ça changera, ils passeront à la 4 bientôt, mais en tout cas, voilà, la 3.5 fait très bien ça, c'est gratuit, n'importe quel commercial peut l'utiliser et ça marche. Après, tu as la version payante. La version payante, c'est ChatGPT 4 pour l'instant, enfin GPT plus. Là, ils sont en version 4, mais ça devrait changer au fil du temps. Donc GPT plus. En fait, GPT plus donne accès à des nouveautés, à des fonctionnalités et, comme je disais, un bot qui est légèrement plus intelligent, comme je disais, plutôt sur les questions de raisonnement, de développement, etc., etc. Mais le gros avantage, et c'est ça qui m'a fait vraiment moi aussi passer à l'abonnement payant, c'est de pouvoir en fait ajouter des plugins. En fait, des plugins, c'est comme les extensions Chrome. Tu peux en installer pour l'instant jusqu'à 3. Je pense que plus tard, tu peux en installer plus. Et en fait, ces plugins-là permettent d'ajouter des fonctionnalités au ChatGPT. Parce qu'en fait, le ChatGPT est limité aux données, je crois que c'est de septembre 2021 ou 2022. Donc en fait, ce qui est. Voilà, ce qui, par exemple, tu lui demandes quels sont les influenceurs dans le domaine du marketing ou du luxe. Il va te sortir des données de 2021. En 2022, c'est un peu changé, quoi.
Ouais.
Donc ce que tu vas lui demander, c'est que tu peux, avec cet outil-là, aller crawler des URL. C'est-à-dire que tu peux lui dire, va, comme disait la fameuse vidéo YouTube dont on a parlé, tu dis, prends-moi cette vidéo YouTube, prends-moi cette page web, et en fait, il va te la crawler, il va te l'analyser. Alors, ça compte un certain nombre de crédits. Plus, en fait, tu as de contenu, plus ça compte de crédits. Avec la version plus, actuellement, tu es limité à 25 requêtes en 3 heures, mais bon, faut quand même déjà les épuiser, ces 25 requêtes. Mais donc, tu vas pouvoir, par exemple, tiens, imaginons que tu as un rendez-vous avec une entreprise et tu te dis, mais bon, alors j'ai un rendez-vous avec cette boîte, qu'est-ce que je vais pouvoir leur poser comme question sur leurs enjeux, leurs attentes et des choses comme ça. Et en fait, tout simplement, tu vas dire au ChatGPT, analyse-moi cette URL. Donc, il va analyser l'URL, par exemple, de la page à propos de l'entreprise, la gamme de produits, etc. Alors, c'est ça qui est un peu limite, c'est que donc t'analyses comme que des URL et tu dis, bah, imagine-moi quelles sont les questions que je pourrais poser à cette entreprise concernant, par exemple, la stratégie commerciale, leur stratégie marketing, etc., etc. Tu peux également, tiens, imaginons que tu es Trustpilot et que tu. Alors, Trustpilot, il y a différentes pages, c'est ça aussi ce qui sera un petit peu les limites. Mais tu peux dire, bah, tiens, analyse-moi les commentaires des avis sur ce produit, ou qui est le produit d'entreprise, le produit d'un concurrent. Et dis-moi en fait quels sont les avis positifs, négatifs. Par exemple, tu peux très bien aller sur Amazon, tu vas en fait afficher tous les commentaires de la page, il va t'afficher les 5, 10, 15, 20 avis sur un produit. Et tu peux dire au ChatGPT, analyse-moi cette page. Alors d'abord analyser. Et ensuite, tu lui poses la seconde question. Dis-moi quels sont les plus et les moins de ce produit et les choses qu'on pourrait améliorer. Alors les choses qu'on pourrait améliorer, ce sont les points négatifs qui passent en positif. Mais voilà, et c'est assez intéressant parce que ça te permet comme ça d'analyser une grosse masse de données ou d'analyser des données et en fait de se dire ben, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux poser comme question. Alors, pour les profils LinkedIn, pour l'instant, il y a quand même une petite restriction sur les accès puisque de plus en plus, en fait, les boîtes vont justement empêcher ce genre d'outil de crawler parce qu'autrement, tu pourrais très bien dire bah, je vais prendre ton profil LinkedIn et dis-moi quel icebreaker, enfin, quel accroche en fait, je pourrais faire à ce gars-là, quelles questions je pourrais lui poser, quels points communs on a, etc., etc.
En fonction de son CV, de ce qu'il a mis sur sa page,
exactement.
Tu as les bonnes questions. Je pense aussi à un usage, là, tu as donné plusieurs exemples pour le commercial. Je pense à un usage. Moi, j'ai été beaucoup dans l'enregistrement vidéo pour analyser des rendez-vous, débriefer des meetings. Là, tu pourrais très bien demander à ChatGPT de te faire le transcript du rendez-vous et de sortir peut-être le point de bascule, le moment de négociation, des choses dont tu as parlé de Mojo, que fait un peu Mojo que j'ai invité dans le podcast. Mais ça pourrait être une application en fait, d'analyse de rendez-vous via la vidéo, via l'URL de la vidéo que tu mettrais sur YouTube, par exemple. Et là, ça deviendrait extrêmement puissant, puisque moi, avant, ce que je faisais avec mon logiciel, c'est que je l'analysais de manière manuelle.
Mais en fait, c'est ça un peu la complexité. C'est qu'en fait, ChatGPT, il est intelligent, mais il faut bien lui expliquer les choses. C'est-à-dire que tu peux lui dire, il peut pas, il n'a pas cette compétence humaine. C'est-à-dire qu'il va pouvoir te dire qui a parlé le plus. Peut-être, ouais, je pense qu'il doit pouvoir te dire qui a parlé le plus. Et tu penses que tu peux dire aussi est-ce que la personne a dit bonjour ? Est-ce que la personne a dit un message au revoir à la fin ? Ça, je pense que tu peux le dire avec un prompt. Mais après, te dire mais quel a été le point de bascule ? C'est compliqué pour un logiciel.
C'est compliqué, oui.
Parce que lui, le point de bascule, à quoi ça correspond ?
Il faut être plus précis.
En fait, ce qui se passe, c'est que tu as. Donc, nous, on connaît le ChatGPT gratuit dont tu as parlé. Il y a le ChatGPT Plus qui est la version payante. Mais aussi, tu as ce qu'on appelle le Playground. Le Playground, en fait, c'est la version avec les API du ChatGPT. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu peux coder tout ce que tu veux. Et c'est vrai que chez Loco, on a commencé à l'utiliser. Et en fait, tout ce que tu veux, c'est de dire que tu peux dire, je vais prendre cette fameuse vidéo dont tu as parlé, là, enregistrement. Et en fait, tu dis, tu prends cette URL, tu donnes ta clé d'API pour que ça soit réservé à toi, et tu crées un prompt sur mesure. Et à ce moment-là, par exemple, là, je vais faire une démo, là, le 1er juin, d'un callbot, c'est-à-dire d'un robot au téléphone, qui va, en fait, appeler l'URL du ChatGPT pour en fait répondre aux questions des gens. Un peu comme, je ne sais pas, un Akinator, mais pas un Akinator où il va deviner, mais en fait un Wikipédia au téléphone. Et en fait, si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Tu utilises l'API, tu vas appeler en fait le ChatGPT, tu vas poser une question, par exemple, qui est Chantal Goya ? Quand est né, Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que les gilets jaunes ? Enfin bref, il va répondre des trucs. Alors, les gilets jaunes, je ne sais pas s'il connaîtra parce que c'est inférieur à telle date, mais bon, voilà, il va répondre un truc. Sauf que, comme le ChatGPT, tu auras fait un prompt de base, il va te faire la tartine énorme. Et donc, en fait, avec cette histoire de requête, tu peux lui dire « Réponds-moi en 3 phrases ou en 4 mots ou en 3 phrases, en 2 paragraphes sur ce contenu. » Et tu peux, en fait, comme ça, paramétrer ton prompt. Tu peux dire, par exemple, si c'était au téléphone, résume-moi en 3 phrases tes réponses et en fait suite à la question qui a été posée. Et donc en fait la question il va la récupérer et il va la reprendre. Pareil donc pour ce fameux logiciel, c'est se dire je vais utiliser cette API pour aller analyser et grâce au prompt que j'aurais réussi à créer, c'est par exemple quel était le temps de parole entre la personne et le locuteur, enfin le commercial et l'entreprise, puisqu'en fait tu pourrais faire ça puisque t'as une variable en fait que tu peux analyser. Est-ce que j'ai parlé suffisamment ou pas? Est-ce que par exemple j'ai mentionné telle chose? Est-ce que j'ai dit telle chose? Est-ce que j'ai bien fait la formule de politesse, etc., etc. Et donc là ça ouvre vraiment des possibilités assez énormes sur l'analyse en fait de gros volumes. Mais bon, là encore une fois, c'est c'est pas hyper simple. Là, tu rentres tout de suite dans du développement et des choses un peu compliquées.
Oui, voilà, ça, tu as besoin de développeurs. Après, ça peut donner des idées de création de boîtes, d'applications, de nouvelles fonctionnalités. Enfin, moi, je vois bien que si j'avais eu ça il y a 2 ans, 2, 3 ans, j'aurais pu aller très vite dans des fonctionnalités qu'on me demandait, que je trouvais un peu compliquées. Tu vois, on me demandait souvent, est-ce que c'est possible d'avoir de la reconnaissance, enfin, de la transcription automatique pour avoir de la reconnaissance de mots précis, etc. C'est ce sur quoi travaillent des sociétés comme Gong, .io ou Mojo, mais là ça devient plus accessible à coder.
Ouais, exactement.
Je reviens sur le commercial qui nous écoute. On n'a pas parlé bien sûr des mails, on a parlé d'autres choses, mais c'est vrai que je vois tout de suite une application dans les mails où tu reçois souvent, toi en tant que prospect, des mails un peu bateaux. Là, c'est un peu l'opportunité pour des commerciaux qui ont un peu du mal à copywriter un mail.
Ouais.
Finalement, à l'améliorer. Donc, j'imagine que tu as vu des choses.
Ah ben justement, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Tu vois, là, je
Ouais.
vais faire en fait un webinaire très prochainement. Et c'est vrai que moi, je suis comme pas mauvais en copywriting, quoi. Et c'est vrai que j'étais avec un commercial. Et donc, on était en train de dire, parce que c'est lui, c'est le président, c'est les présidents et commercial de la boîte. Hein, c'est un ancien commercial de chez nous qui a monté sa propre boîte.
OK.
Et donc, tu vois, le marketing, il connaît un peu, mais c'est pas un peu sa tasse de thé. Donc, on était comme ça en train de discuter. Puis, je dis, bon, alors, le texte de ton webinaire, qu'est-ce que tu vas dire dans ton webinaire? Et c'est vrai que, OK, moi j'ai sorti mon truc, tac, 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 et puis j'ai fait, je dis, mais tu sais, pour un bon accroche au webinaire, tu fais une méthode AIDA, intérêt, enfin, accroche, intérêt, désir, action, etc. Il me dit, ah ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé, ta, 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 ta. Et en fait, je dis, mais attends, tu vois, là, j'ai fait mon texte, je l'ai tapé comme ça, mais vraiment, en prise de notes, hein, il y avait des fautes, c'était pas très bien structuré. Je dis, regarde, je vais te l'envoyer au chat GPT et je lui demandais, améliore-moi ce texte pour le rendre plus engageant. Je l'ai copié-collé, je l'ai mis dedans et il m'a sorti un truc. Bah finalement, c'était pas si mal que ça, quoi. Et pareil, tu peux aussi lui dire, bah, j'ai créé un message. Et c'est que parfois, certains commerciaux sont pas très bons justement sur l'écriture, les fautes d'orthographe. Même moi, tu vois, je suis pas très bon, je suis un peu dyslexique, donc j'ai un peu de mal avec les fautes d'orthographe. Donc tu peux dire, viens, prends-moi ce texte-là. Est-ce que tu peux le corriger et l'améliorer pour le rendre plus vendeur? Ou tu peux lui dire, tiens, est-ce que tu peux me le réécrire en mode AIDA? Et en fait, il va te prendre ton texte. Et de se faire des propositions de texte. Et là, pour un commercial, c'est assez sympa parce que tu peux dire, bah, tiens, fais-moi, ah non, c'est trop commercial, ah non, c'est pas assez vendeur, ah tiens, est-ce que tu peux rajouter ci, ah tiens, tu peux rajouter ça. Et en fait, comme ça, tu peux avoir un mini marketeur qui va t'aider en fait à créer des versions d'email un petit peu plus vendeur. Parce que parfois, tu peux dire même à un client, tiens, comment je peux faire? Est-ce que tu, voilà, un commercial peut très bien avoir à relancer des factures impayées. Le problème, c'est que des fois, tu es en train de dire, bon, alors qu'est-ce que je vais dire pour pas froisser le client, etc. OK. L'intérêt du chat GPT, c'est que tu n'es pas obligé de lui créer un texte. Tu vas lui dire, est-ce que tu peux m'écrire une lettre de relance pour le client Martin pour 17 000 euros impayés d'une facture de prestation en mettant, bien sûr, des formules de politesse. Et là, tu vas entrer. Et il va te sortir le mail avec Bonjour Monsieur Martin, sauf erreur de notre part, je n'ai pas encore reçu le règlement du montant de temps, ta, 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 bien entendu, si c'est une erreur. En fait, il va te créer comme ça le mail type. Et en fait, bien entendu, le commercial, comme je disais, il va réécrire, il va se l'adopter parce que parfois, tu as un ton qui n'est pas très. En fait, le ChatGPT a un petit peu tendance à parler comme un vieux prof de français. C'est-à-dire qu'il va te dire des « En outre, il est essentiel !» Et donc, en fait, selon ta manière de parler, ça se verra.
Ouais,
Et c'est ça aussi pour ça que Google, il repère les textes du ChatGPT parce qu'il y a une manière d'écrire qui est repérable, en fait.
Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait le test ce matin et hier de post LinkedIn où tu vois, tu passes du temps dessus pour essayer d'avoir un copywriting sympa et finalement tu te dis rends-le-moi plus engageant et il te donne une version alors qui n'est pas toujours parfaite, mais tout de suite tu vois une amélioration. Il te met des emojis maintenant, ce qui, à mon avis, n'était pas le cas il y a quelques mois, c'est assez drôle. Et tu peux vraiment, c'est conversationnel, donc tu peux lui dire améliore encore un peu le truc, donc il va te mettre un peu plus de détails, un peu plus de phrases, Et tu peux le faire vraiment de refais-moi une version, refais-moi une version. Et à chaque fois, il va pas rechigner à la tâche puisque c'est un robot. Et là, tu vas avoir des trucs qui sortent, qui sont assez surprenants. J'imagine que dans quelques mois, ce sera encore plus surprenant. Mais pour un commercial, on dit souvent que les commerciaux doivent faire du contenu, mais en fait, c'est pas évident.
Ouais,
parce que,
alors, moi, j'ai mon expérience me dit que un commercial, en fait, tu sais comme moi, et son métier, c'est d'aller closer du deal. Donc, il peut certes prendre du temps de temps en temps pour relayer. Déjà, si un commercial, il relaie. Il fait des commentaires et tout ça, c'est déjà pas mal. Nous, maintenant, moi, j'essaye d'automatiser ça parce que tu as des outils de growth hacking comme Wallaxy, LinkedIn Helper, qui sont vraiment intéressants. Et tu vois, avec la team commerciale, on peut faire du like d'une cible, en fait. Soit c'est des gens de l'entreprise, par exemple, tu vas liker automatiquement les publications des collègues de bureau, des managers, du marketing, du compte, etc. Soit, en fait, tu peux aussi liker les publications de tes prospects types, hein, parce que quelque part, une fois que tu as commenté 10 fois les publications, le mec il va se dire, mais c'est qui ce gars-là? Donc, crée du lien. Mais donc, moi je vois un commerce, même j'ai 2-3 commerciaux qui sont vraiment à fond dans le social selling. Eux, en fait, ils ne rushing pas à créer du contenu, et pourtant, c'est compliqué pour eux parce que on les attend pas là-dessus. Le directeur commercial, il va pas les dire ah, bravo, tu as fait 3 publications LinkedIn. Il va à la rigueur leur taper sur les doigts. Hey, t'as pas liké les publications de la boîte là. Il y a le boss qui nous dit qu'il faut qu'on bosse là-dessus. Ça, à la rigueur, ça va, mais il sera jamais félicité pour avoir créé 10 publications. On lui dira plutôt et c'est où les affaires là. En fait, ce qui se passe, c'est que moi je l'ai fait avec 2-3 commerciaux, c'est-à-dire qu'on a pris un petit peu de temps pour créer des publications avec le ChatGPT. Alors, grosso modo, il faut un quart d'heure. Et en fait, en un quart d'heure, tu peux programmer comme ça une publication. Tu peux comme ça animer son compte de manière un peu différente. Et on a eu le cas comme ça avec mon collègue Jean-François. Donc, il y a 2 méthodes en fait pour le faire. Alors, la première méthode, c'est la méthode vraiment très feignante. Et la deuxième méthode, c'est la méthode un peu plus intelligente. Alors, j'ai commencé par la méthode un peu plus intelligente, se mettre en valeur l'humain. La méthode la plus intelligente, c'est ça. C'est tu dis quels sont les sujets polémiques de notre secteur d'activité où tu sais qu'il va y avoir du like, du commentaire, de la passion et des choses comme ça. Par exemple, moi, je sais que c'était le NPS. Le NPS dans le domaine de la relation client, c'est toujours un sujet qui fait couler de l'encre parce qu'il y a les pour, il y a les contre. Ouais. Non, c'est pas bien, c'est bien, machin, etc. etc. Et je dis, tiens, Jean-François, on va se faire une publication sur pour ou contre le NPS, quelles sont les limites, les machins. Et donc, je dis, ce qu'on va faire, on demande au ChatGPT, dis-moi quels sont les plus et les moins du NPS avec des avantages et des inconvénients. Donc, en fait, on a cette publication de base là, avec, comme tu as dit, des emojis en mode conversationnel. C'est vraiment important de dire mode conversationnel. C'est là, en fait, où tu vas vraiment te faire un post pas auto-promo comme d'habitude, qu'on voit trop, mais vraiment où il pose des questions. Donc, je crois que la publication, c'était le NPS pour ou contre, avantage, inconvénient, est-ce que c'est la panacée, enfin, j'en sais rien, il a mis un truc comme ça. Donc là, il y avait un contenu de base, mais qui n'était pas génial. Parce qu'en fait, le ChatGPT, il sait faire des trucs génériques, mais il n'est pas expert. Donc en fait, quand tu as un contenu comme ça, tu dois faire, un, virer les trucs qui sont trop génériques, qui sont hors sujet, blablabla. Deux, tu dois rajouter ton expertise avec un cas client, bonne pratique, un retour d'expérience. Et trois, tu dois donner ton point de vue en disant « selon moi » ou « d'après moi » ou « d'après mon expérience », ta, 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 ta. Et là, tu montres en fait ton expérience. Et lié à ça, après, bien sûr, tu demandes quel est votre point de vue en entrée et tu mets quel est votre point de vue, donnez-moi vos commentaires, ta, 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 à la fin. Et là, en fait, tu as une publication qui est non seulement avec un sujet viral parce que tu te connais. Deuxième chose, tu as un mode conversationnel, donc qui engage la conversation. Tu as la valeur ajoutée du ChatGPT qui est assez générique. Tu as ta propre valeur ajoutée à toi et tu as un début d'échange. À la rigueur, si tu invites des collègues de bureau ou d'autres personnes à liker, à commenter, qu'en pensez-vous, etc. Bam, ça rajoute un petit peu. Et là, en fait, tu fais une publication qui est assez sympa et qui marche pas mal. Donc ça, c'est la méthode un peu intelligente qui valorise l'humain parce que les deux se mettent en avant. Deuxième solution, tu n'as pas beaucoup de temps et tu dis, j'ai 2 heures pour à la pause du midi ou 1 heure, enfin 2 heures, c'est beaucoup. J'ai 1 heure à la pause du midi pour faire 1 ou 2 publications LinkedIn cette semaine. Je demande au ChatGPT. Tu demandes au ChatGPT quels sont les 10 sujets polémiques ou sujets à controverse dans tel secteur d'activité. Alors, faut bien faire attention aux mots parce que si mes polémiques, controverses, ChatGPT, il n'aimera pas ça, mais tu dis quels sont les sujets à débat ou les choses comme ça, ou les grandes thématiques, ou les tendances, enfin bref. Et là, il va te sortir 10 sujets. Sur les 10 sujets, généralement, tu en as, allez, 2-3 qui sont vraiment des vrais sujets. Et après, par exemple, tu peux dire quelle est la place de l'humain dans le truc. Moi, j'avais fait, j'ai fait un test. Je lui ai dit quels sont les sujets entre les sujets polémiques ou à débat en sujet de la, je crois que c'était l'expérience client ou la culture client. Et le sujet, c'était genre, que je vais trouver intéressant, c'est est-ce que travailler l'expérience client nuit pas à la rentabilité à court terme ou un truc comme ça. Et c'est vrai que ah tiens, c'est vrai que c'est un sujet intéressant qui peut poser débat. Tu demandes au ChatGPT, tac, alors est-ce que tu peux me créer une publication LinkedIn sur cette thématique, machin. Toi, tu n'as même pas besoin d'aller lui dire qu'est-ce que tu veux mettre dedans. Il va te rédiger à partir de cette thématique-là une publication de base. Alors, c'est pas forcément génial parce que tu n'as pas beaucoup indiqué d'infos, etc., etc. Mais ça donne une trame. Et à partir de cette trame, tu réécris la moitié du contenu. Et en fait, tu as un truc avec, comme tu as dit, les emojis, le mode conversationnel et tout ça. Et tu fais ton truc. Et là, en fait, c'est vachement plus facile pour un commercial parce qu'en fait, il a ses idées, il a la base de travail. Et il peut le faire. Alors, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de travailler, moi, ce que j'appelle en mode batch, en mode routine. C'est-à-dire que vaut mieux se prendre une petite heure pour le faire et le mettre dans son agenda parce que c'est beaucoup plus efficace que d'aller,
Ouais.
comment dire, de se dire, allez, il faut que je fasse une publication aujourd'hui ou un truc comme ça. Il faut mieux se réserver un petit peu de temps, quitte à faire une publication, deux publications, etc.
C'est intéressant parce qu'au début de l'interview, tu disais que tu étais à la fois consultant à ton compte et puis tu avais ton job salarié. Moi, je ne savais pas, je pensais que tu avais juste ta propre activité. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de destruction d'emplois, etc. Mais en fait, tu peux aussi multiplier tes activités avec ce genre d'outils. Tu peux être à la fois freelance par exemple, moi, je suis sur du coaching de commerciaux et tu peux du coup te libérer du temps grâce à ChatGPT pour avoir un job à côté si tu le souhaites.
Alors, oui et non. Alors, c'est vrai que oui, parce qu'en fait, ChatGPT te permet de faire pas mal de choses, mais quelque part, tu vas en fait un grand âge qui va arriver. D'ailleurs, tu auras une différenciation entre ceux qui maîtrisent le ChatGPT et les autres. Et ça, en fait, ça va être un problème en entreprise, parce que d'un côté, tu vas avoir les gens qui sont plutôt seniors. Par exemple, ma collègue Chantal, je parle tout le temps d'elle, qui est une puriste de l'écriture, qui a des boutons dès qu'on parle du ChatGPT. Bon, pas à ce point-là, Chantal, tu me pardonneras. Et elle, en fait, elle dit, non, non, moi, je vais écrire mes propres textes, etc., etc. Et les petits jeunes qui vont sortir de l'école, qui auront été picousés au ChatGPT, parce que moi je le vois, quand j'ai mes élèves en cours, le ChatGPT, il tourne souvent, quoi. Hein et quelque part, tu vois, par exemple, je leur donnais un petit exemple de copywriting, là. Je mettais, tiens, voilà des fonctions. Est-ce que tu peux. Une partie de leur épreuve, c'est que tu transformes ces fonctionnalités, par exemple des fonctionnalités de logiciel, tu les transformes en bénéfices. Et c'est vrai que pour eux, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut qu'ils se mettent dans l'esprit que telle fonction, ça devient tel truc. Et bien en fait, avec le chat GPT, finalement, tu te fais en 3 secondes, quoi. Et là, voilà. Donc en tout cas, tu auras vraiment une différence entre ces gens qui sont, qui veulent pas ou qui n'ont pas ou qui n'ont pas pris le temps de se former au chat GPT et les autres en fait qui vont arriver qui n'ont pas avoir ce recul ou ce truc là-dessus qui vont se dire tiens bon allez hop je me fais pas chier j'ai un email à écrire sur par exemple un texte ou peu importe je le fais d'ailleurs moi je le vois au niveau de l'écriture chez pas mal de mes étudiants bon moi je leur jetterai pas la pierre comme tu sais je suis pas très bon en orthographe mais il y a pas mal d'étudiants qui ont une orthographe un peu moyen. Et justement, ma collègue Chantal se plaint toujours de nos petites jeunes en disant, ah non, mais c'est pas tout à fait français. Ah, la tournure. Parce que Chantal est très littéraire, elle est très, très douée pour les textes. Mais comment dire, elle écrit un petit peu comme le chat GPT, en vieux prof de français, avec des en outre. À chaque fois, on rigole de tout ça parce que elle écrit des petites phrases comme ça dans nos. Enfin, à chaque fois, nous, tu vois, quand on se fait des pitchs. pour des webinaires, des choses comme ça, on coécrit le pitch. C'est-à-dire que Chantal ou moi, enfin, généralement, je lui file une base, Chantal écrit, je corrige s'il y a des trucs à rajouter, etc. Donc, on travaille vraiment en mode collaboratif. Et à chaque fois, elle me dit, tu verras, j'ai mis un petit en outre, en revanche, machin et tout ça. Je dis, bah, c'est le ton de la boîte. Si tu veux avoir un ton corporate, fais-le. C'est, ouais. Moi, j'écris comme je parle parce que c'est sur LinkedIn, c'est important d'avoir ça parce qu'il faut réduire le frein. Comme en copywriting sur une page de vente, il faut que la page de vente se fasse comme une lecture. Donc, tu dois écrire comme tu parles. Et donc, en fait, voilà. Donc, il y a vraiment une différence entre ces personnes-là et tu auras des gens qui maîtriseront bien et qui gagneront du temps par rapport aux autres. Les autres qui vont être un petit peu à perdre un petit peu de temps. Et ça va, je pense qu'il y aura un petit tassement à se faire sur ces deux usages.
Et en même temps, les étudiants qui ne passent que par ChatGPT, à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir un souci de structuration de la pensée ou de transformer des fonctionnalités en bénéfices. S'ils n'ont plus de ChatGPT, parce que je ne sais pas, ils n'ont pas leur ordi à dispo, ils sont en réunion, tu vois, s'il faut
faire gaffe. Mais même à un moment donné, c'est comme le calcul, tu vois. Moi, il y a 20 ans de ça, je faisais tout de tête. Hein. Quand on faisait des additions au restaurant et tout ça, je faisais tout de tête. Quand on me demandait de faire des calculs de rentabilité, de machin, je faisais tout de tête. Maintenant, je sors ma calcul, quoi. Je suis plus capable de faire une addition au restaurant pour savoir, bon alors, on est 5, tu vois le sketch de Muriel Robin, combien tu dois
Et là, du coup, on passe dans un podcast philosophique de...
Après, si on revient sur le concret de terre à terre, tu vois, moi je vois, il y a souvent des commerciaux qui font des petites fautes, qui n'ont pas forcément les capacités d'écriture. Et ben, tu peux très bien prendre ton email et dire, allez hop, réécris-moi cet email, ce texte, etc. etc. Et c'est pas mal. Donc, soit il y a des choses qui peuvent être assez sympas. Et même, tu peux aller plus loin. Parce que, comme je le disais, le ChatGPT, c'est pas juste fais-moi ça de manière littéraire. Par exemple, là, dans beaucoup de boîtes, Eloquent pour l'instant est très franco-français, mais dans les boîtes dans lesquelles j'étais précédemment, qui étaient des boîtes internationales, ben en fait, le langage anglais est devenu comme pas mal la norme. Sauf qu'en fait, quand tu n'as pas l'habitude de maîtriser l'anglais pendant un certain temps, tu galères un peu. Et si tu as, par exemple, une présentation PowerPoint à faire à des Anglais, si tu as des emails à faire, le Frenchie, ça se voit. Moi, je voyais mes collègues irlandais, à chaque fois, ils rigolaient parce que, tu vois, quand on allait les voir, parce que notre R&D était là-bas, on allait régulièrement là-bas, et puis ils rigolaient avec notre French accent, et puis les manières de dire des mots en français qui ne sont pas des mots en anglais. Et il disait, ah, c'est marrant cette phrase. Et en fait, avec le ChatGPT, tu peux lui donner des ordres vagues pour que ça fasse un texte clair. Par exemple, si tu veux dire, tiens, je voudrais, écris-moi un email en anglais à mes trois collègues Marc, Alan et Michel et demande-leur d'aller boire un verre demain soir au pub de manière familière. Et en fait, tac, il fait « Hey guys, how about going out tomorrow night after the work ?» Et il va te faire un truc, tu vois, il va te faire la phrase comme ouais. Ça. Et c'est assez impressionnant.
C'est vrai que moi, j'ai bossé dans des environnements internationaux avec des boîtes américaines. Et forcément, j'étais pénalisé puisque j'étais un des seuls Français de la boîte. Du coup, je communiquais beaucoup en anglais et du coup, je prenais du temps pour traduire, réfléchir. Attention, il y a des fautes, ma tournure de phrase, etc. Et alors qu'avec cet outil, finalement, tu peux très vite évoluer dans un environnement international, même si ce n'est pas ta langue natale, bam, 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 comme tu dis, avoir tes prompts au moins pour
alors,
les mails.
C'est pas la solution miracle, hein. Oui, il ne faut pas ça. Non plus se dire que tu vas devenir fluent in English. Mais,
non, mais résumer une pensée complexe par écrit, tu vois, en anglais, ça prend du temps. Alors là, tu gagnes un temps fou. Et j'imagine qu'en plus, ça va s'ajouter sur les Google Meet, les visios, où finalement, tu vas parler dans ta langue natale et tu auras une traduction, une transcription en anglais, voire une autre
voix. Alors ça,
voix.
Pour l'instant, je ne l'ai pas testé, mais c'est clair que tu as déjà des applications comme ça et c'est pas mal. Mais le problème, la limite de ça, c'était que, par exemple, tu vois, moi, quand je bossais chez une boîte belge qui était internationale, c'est vrai que j'étais incapable, mais vraiment incapable de faire des pages de vente en anglais. Et heureusement qu'on avait une franco, enfin, c'est pas une franco, c'était une anglaise qui était quasiment qui était bilingue en français. Et donc, elle savait tout à fait faire l'inverse. Mais c'est vrai que là, moi, je lui écrivais des textes et elle me disait, c'est pas très français, attention, il y a une faute et tout ça. Là, en fait, tu peux prendre ce texte pourri en anglais et en fait, le texte pourri, il va te le réécrire en correct. Alors, encore une fois, avec les limites de la traduction, parce que par exemple, tu as DeepL qui existe, hein, tu peux utiliser DeepL qui traduit du français à l'anglais. Alors, c'est toujours un peu très littéraire, et je sais que moi, j'avais comme ça un collègue allemand, et c'est vrai que moi, j'ai fait de l'allemand quand j'étais au collège, donc ça datait un peu, et je faisais appel à des traducteurs internationaux, low cost, avec des sites comme TextBroker, TextMaster et compagnie, et ils me disaient, oh là là, c'est du Google Translate ton truc, un Allemand ne dirait jamais ça. Et il me disait, bon, alors, je lui filais cinq traductions de cinq traducteurs. Et il me disait, bon, je lui disais, alors, lequel est le moins mauvais? Et il me disait, bon, c'est celui-là le moins mauvais, j'aurais le moins à réécrire. Et là, je te dirais que je n'ai pas suffisamment de recul pour avoir du texte vraiment de qualitatif. Mais pour un commercial qui veut traduire des mails, traduire des PowerPoint, traduire de la Doc Word, etc., ça fait le job d'un premier niveau. Voilà, d'un premier niveau. Et c'est ça en fait souvent qui est un problème, c'est que dans les métiers comme ça des services, c'est que le premier niveau prend du temps et après derrière en fait tu galères à un petit peu améliorer, mais déjà le premier niveau c'est déjà un premier pas quoi, voilà.
Ouais, et puis je suis beaucoup dans le milieu des startups. On te dit souvent viser l'international, vous cantonnez pas à la France, etc. Tout de suite, la barrière à l'entrée de OK, il faut que je prospecte des gens via des mails, via des messages LinkedIn, etc. en anglais, bah, tout de suite, ChatGPT te permet d'avoir une barrière à
Un
l'entrée
premier niveau, ça fait un premier niveau.
moins
Après,
élevée.
il faut savoir que les Américains aiment bosser avec des Américains. Hein. C'est
Oui.
y a quand même, c'est très compliqué. L'internationalisation des solutions, sauf si tu as une solution pure SaaS, self-care,
C'est ça.
ça va. Mais par exemple, comme je disais, moi, je travaillais chez Effici, une boîte de CRM belge qui vendait en France, en Belgique, en Angleterre, en Turquie, partout, en Allemagne, blablabla. Si tu n'as pas en fait des gens natifs qui sont présents, si tu n'as pas un support, etc., et des gens qui peuvent t'aider à faire l'implémentation, si tu n'as pas un soft self-care, c'est compliqué.
Ouais, et d'ailleurs, après on passera aux questions de la fin, mais le CRM, tu vois, ça peut être une autre application. Souvent, les commerciaux rechignent à remplir leur CRM.
Ah, là, c'est déjà le cas. En fait, là, il n'y a pas le chat GPT, mais par exemple, nous, on peut proposer ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as deux types d'outils. Tu as le premier type, en fait, qui permet, avec ton téléphone, tac, tu prends des notes. Alors, tu as des CRM natifs comme nocrm.io qui font ça, mais maintenant, si tu as d'autres outils, par exemple, il y a Sentier21 et Randstad qui utilisent ça. Alors, Sentier21, en fait, c'est simple, c'est post-rendez-vous. Ils utilisent une petite application et ils parlent dans leur téléphone et ils disent, bah voilà, j'ai fait un rendez-vous pour un vendre à trois pièces avec vue sur le salon, blablabla, blablabla. Et ça va remplir ton CRM. Avec Randstad
Automatiquement.
aussi, pareil, c'est le rendez-vous commercial où tu remplis automatiquement le CRM. Et donc, tac, ça va te créer le CRM. Ça te propose après des tâches derrière qui sont, bah tiens, est-ce que tu veux remplir un rendez-vous? Est-ce que tu veux créer une opportunité? Blablabla. Alors, pour l'instant, c'est des solutions qui coûtent cher. Parce que, enfin, sauf nocrm.io, c'est natif, le compte rendu de rendez-vous, tu le fais en audio et tac, c'est enregistré en audio. Mais les solutions comme Century 21 et puis Randstad, c'est assez cher parce que tu dois reconnaître donc les mots dans les phrases et ça va te remplir après le CRM derrière. Donc, ce n'est pas encore très self-care, mais c'est un premier niveau. Et ça, c'est pour les commerciaux. Et pour le service client, les gens qui sont au téléphone, et ben en fait, tu as la même chose. C'est-à-dire que la personne, elle parle au téléphone. Et en fait, elle dit, bah voilà, je suis couvreur, ça fait 5 ans que je travaille dans l'entreprise Bidule, je suis prêt à travailler lundi, mardi, mercredi. Et donc, en fait, tac, 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 ça remplit les champs. Éventuellement, le chargé de clientèle, il peut aussi saisir à la mano les trucs. Mais donc, en fait, il va te remplir ça dans ton CRM, ce qui est un gain de temps, ce qui te permet de te concentrer en fait sur la conversation et parfois aussi d'avoir des rappels disant, tiens, est-ce que tu as proposé ça? Est-ce que tu as proposé ci? Etc. etc. Donc,
Ouais.
ça, c'est une aide et les premiers pas du commercial augmenté.
Ok, excellent. Bon, on fait un petit coucou aux copains de nos CRM, puisqu'ils ont sponsorisé le podcast, tu vois. Donc,
Ben,
on est.
Sani et toute son équipe, non, c'est un bon petit CRM.
Ok. Et dernière question avant de te poser la question de la fin, sur la partie intelligence artificielle, tu as pu tester le concurrent qui arrive là, Bard, ou pas
Alors, j'ai
encore?
testé un peu.
Ouais.
Je trouve que c'est pas mal. Mais j'essaie de me concentrer déjà sur le chat GPT parce que
Ouais.
y a quand même une montée en compétences. Même si tout se ressemble au final, l'art du prompt, tu le retrouveras partout. C'est toujours un petit peu la même chose. J'essaie de me concentrer. Par contre, ce que j'ai essayé, mais ça intéressera pas les commerciaux, c'est les outils de génération d'images. Tu as Midjourney, qui est vraiment un super
Ouais,
outil. Et
ça j'ai
par exemple,
essayé,
toi,
ouais.
j'ai pris un abonnement payant parce que grâce à ça, j'ai toutes mes illustrations d'articles de blog qui sont faites.
Ouais,
En
trop bien.
revanche, tu t'amuses un peu trop. Et tu vois, même avec mes filles, on était en train de travailler, enfin, travailler, même pas des formations professionnelles. On était en train de s'amuser. Et elle me disait, tiens, est-ce que tu peux me dessiner un requin avec une tortue, un machin? Puis elle regardait, ah ouais, c'est génial et tout ça. Et c'est pour ça que je te recommande deux autres outils. L'un qui est un peu en dessous, qui est comme deux crans en dessous de Midjourney, qui est Bing Create. Donc, tu tapes Bing Create sur Google, et là, c'est l'outil de Bing qui utilise Wally, l'outil de générateur du chat GPT. Les images sont pas mal, mais je trouve que c'est un petit peu un niveau au-dessous. Et le deuxième, qui est un cran en dessous de Midjourney, qui est Leonardo AI, qui est un outil en fait qui se rapproche énormément de Midjourney et qui permet comme ça de créer des jolies petites images assez fun, quoi. Et ce qui est intéressant, et ça intéressera les commerciaux prochainement, c'est qu'en fait tu vas pouvoir commencer. Pour l'instant, c'est pas encore possible, mais tu vas bientôt pouvoir créer des images avec du texte dedans. Parce que pour l'instant, tu peux créer des images, mais tu ne peux pas faire apparaître du texte. Là, bientôt, tu pourras intégrer du texte dedans qui peut être intéressant pour faire, par exemple, une accroche personnalisée. Là, par exemple, j'ai reçu, tu vois, un icebreaker d'un gars qui est dans la gestion de patrimoine. Donc, il a fait, tu vois, le message LinkedIn de base. Voilà, bon, petite introduction. Ensuite, tiens, est-ce que je peux vous aider pour votre investissement financier? Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Et il me renvoie après un message un mois plus tard, me disant, hey, est-ce que ça voudrait te prendre un café virtuel? Et sur la tasse, il y a marqué mon prénom, quoi. Tu vois?
Ah oui, mais
Et
ça c'est beau.
ça, ouais. Et donc, en fait, bon, tu peux imaginer qu'il y a des choses comme ça qui permettraient de générer des images à la volée on demand sur certaines choses. Et la
Ça
troisième image.
c'était le hack Lemlist, ça, à un moment
Ouais,
donné,
Lemlist avec la petite vidéo
tu disais
personnalisée.
ça.
Et la troisième chose, parce que toi, j'essaye plus que chercher plusieurs ChatGPT, j'essaye plutôt d'élargir le truc. Je m'intéresse pas mal aux vidéos générées par l'IA.
Ouais.
Parce qu'en fait, moi, en tant que product manager bot, tout ce qui est speech to text, text to speech, donc synthèse vocale et reconnaissance vocale, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et là, en fait, tu as quelques outils comme par exemple Synthesia. Tu as aussi Studio ID, et tu en as un troisième que j'ai testé. Alors, je vais essayer de te le retrouver là, il n'y a pas longtemps. Donc, un troisième qui est assez sympa, où ça commence à être pas mal. Alors, ça remplacera pas une vraie vidéo de vente, ça remplacera pas un vrai commercial, un vrai message humain, mais pour faire une petite. Comment dire, sur une page de vente, par exemple, si tu vas sur le site EverReady, qui est une petite solution d'intégration des contacts Salesforce, il va pomper ton téléphone et tes emails, il va te créer tes contacts dans Salesforce, ce qui est assez sympa et un gain de temps. Donc, en fait, il va te faire ça. Et donc, en fait, tu as une autre solution, ça s'appelle iGen. I comme hi. Enfin, H-E-Y, Jen. Et en fait, là, il faut que je teste ce petit truc-là et qui permet en fait de générer des petits personas. Donc, tu vois, il y a des trucs qui existent. Alors, pour l'instant, toutes ces solutions-là sont quand même assez chères. Hein. Faut être honnête. Mais il y a de la perspective à venir là-dessus. Donc, voilà, je regarde plutôt ces trucs-là, et c'est vrai que pour un premier niveau d'information, ça peut être pas mal, par exemple. Mais bon, c'est plutôt du marketing encore une fois. Mais c'est intéressant d'avoir cette petite page. Soit tu mets sur ta home page, comme j'ai indiqué sur EverReady ou d'autres, ou alors tu peux par exemple faire un cas client. Tu as un cas client, tu n'as pas envie de te filmer, bah, tu peux utiliser un outil d'IA pour générer comme ça un petit cas client facilement, quoi.
Ok, bah écoute, merci Fred. Je ne connaissais pas les autres outils que tu as cités. Je connaissais Midjourney, bien sûr, mais pas les autres. Donc, on va tester ça. On passe aux questions de la fin. Est-ce que avant ça, tu voulais rajouter une dernière chose sur le
Non,
sujet IA?
non, non, c'est toi qui...
Donc, en gros, le message, c'est il va falloir tester tout ça, mais on a déjà plusieurs applications dans la vente qui vont pouvoir aider les commerciaux. Et ça, c'est top.
Ouais, alors le plus dur, c'est de garder l'habitude. Parce qu'en
Ouais,
fait,
c'est
souvent, moi,
ça.
j'ai vu avec les commerciaux, mon fameux commercial là, qui s'est amusé à faire des publications de ChatGPT, et ben en fait, c'est tu le fais une fois, tu fais deux fois, puis après, il y a le quotidien qui revient
Ouais.
et tu laisses tomber le truc. Et en fait, c'est parce que bah, tu reprends dans ton train-train habituel. Et c'est ça aussi qui va être un avantage par rapport aux gens qui maîtriseront bien l'outil. L'outil, c'est qu'en fait, ils vont l'utiliser. Après, la deuxième chose, c'est que là, on le voit bien, la grosse tendance, c'est d'intégrer ces outils dire d'intelligence artificielle de deuxième génération, troisième génération, les intégrer dans les outils des commerciaux. Et là, en fait, tu n'auras plus à t'emmerder à faire ton prompt et tout ça. Ça va être intégré directement. Par exemple, là, tu vois, j'ai un petit outil d'emailing qui s'appelle GetResponse et ils ont ajouté un petit outil qui s'appelle génération de titres ou de contenu par l'IA. Et en fait, tu rentres un peu ce que tu veux mettre, tac, il te fait un truc. Et dans les CRM, maintenant aussi, tu as les chats un peu comme Einstein dans Salesforce qui permet d'aller faire de la requête sans avoir besoin de tout connaître.
Ouais, moi j'utilise Notion pour mon organisation personnelle et ils ont intégré l'outil IA. Et c'est vrai que du coup, Notion, parfois, ça peut être un peu compliqué pour, tu vois, retrouver le moyen de faire un tableau, tout ça. Là, tu dis juste, fais-moi un tableau croisé sur avec le nom, prénom, l'email, etc. Hop, hop, il te le fait en 1 minute et du coup, Notion devient encore plus puissant que ce que ça
Ouais, bah
l'était.
j'ai commencé à tester, mais je trouve que la philosophie du produit est un peu faut s'y mettre, hein. Moi qui étais
Bah,
sur Trello avant,
faut s'y mettre. C'est vrai que moi, je m'y suis mis grâce à une boîte qui m'avait pris quelques mois en mission et du coup, j'étais obligé de m'y mettre. Et une fois que tu t'y es mis, c'est vrai qu'après, ça déroule. Mais je pense que leur objet avec l'IA, c'est justement de faciliter un peu l'utilisation de cet outil qui peut parfois être un peu
Ouais, parce qu'en
dur.
fait, c'est une boîte à outils et
Mais...
parfois tu te dis, mais comment je fais? Puis il y a des paramétrages, des machins.
C'est ça.
Tu fais les choses très basiques simplement, mais après, même certains qui utilisent ça comme un mini CRM, mais
Ouais.
pas, c'est pas non plus hyper adapté, quoi.
Ouais. Ok, bah écoute, merci Fred. Je pense que ça va donner plein de tips pour utiliser ChatGPT. J'ai quelques questions pour toi avant de te laisser partir. Donc, je voulais te demander, j'ai l'impression que tu testes beaucoup de choses. Quelle est la chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je dis toujours, c'est que pendant très longtemps, j'ai pas su me focusser sur ce qui est vraiment important. Et chez un commercial, encore plus, il y a tellement de choses à faire entre les relances des prospects, les relances des affaires en cours, s'occuper de la base client, faire ceci, faire cela, tu peux vraiment t'éloigner forcément de ton activité à toi. Et moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'avoir une North Star métrique, c'est-à-dire un indicateur business qui me permet en fait de filtrer ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Et par exemple, pendant très longtemps, je dis, mais est-ce que ça va me permettre de générer du business, du chiffre d'affaires? Parce que pendant longtemps, par exemple, pour mon site conseil marketing, je disais, ben, d'un côté, tu as le trafic, ensuite, tu as les prospects, ensuite, tu as le chiffre d'affaires. Et c'est vrai que des fois, on me disait, ah, putain, mon trafic a baissé, ah, faut que je fasse des trucs, ah, tiens, mon chiffre d'affaires a baissé, ah, faut que je fasse une promo. Et c'est vrai que ça suit un petit peu tout le temps le même chemin, mais tu te disperses un peu. Le fait de m'être dit, ben, ce qui compte le plus, c'est le chiffre d'affaires, la marge et tout ça, le nombre de vues, je m'en fous. Ben, en fait, entre guillemets, ça m'a libéré l'esprit et ça me permet de dire non à des choses. Et parfois, les gens me disaient, tiens, est-ce qu'on peut faire un partenariat? Je dis, non, bah non, désolé, c'est pas dans ma ligne éditoriale, c'est pas dans mon truc, etc., etc. Et ça permet de se dire, mais qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact dans mon business? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et je pense que c'est la clé. C'est savoir dire non et être focusé sur ce qui va vraiment rapporter dans son activité au quotidien. Encore plus quand tu es freelance. Quand tu es freelance, moi, à chaque fois, je me disais, parce que j'étais freelance à temps plein pendant un certain temps, c'était, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va rapporter le plus de business et pas ce que je dois faire? Parce que quand tu es indépendant, tu dois plus penser en salarié en termes de bah, qu'est-ce que travail je dois faire? Mais qu'est-ce qui va rapporter du business? Et ça, c'est un switch, waouh, qui est pas facile à faire.
C'est vrai, en plus qu'on a tendance à vouloir faire plein de choses et à faire des choses qui, comme tu dis, sont pas forcément
Ah, des choses
nécessaires.
administratives, se faire
Ouais, c'est ça.
plaisir, tiens, lire un podcast, regarder une vidéo, machin, enfin bref. Tu dis,
Ouais.
bah, je connais un de mes potes comme ça qui est freelance il a un peu tendance à explorer tous les sujets. C'est-à-dire que on lui parle d'un truc, il dit, ah tiens, bah, je vais me renseigner. Et puis hop, il passe des heures à se renseigner. Je dis, mais non, mais pourquoi tu passes des heures? Voilà.
Ok, bah écoute, ma question suivante, tu as répondu un peu, hein, c'était sur un changement d'état d'esprit que tu as fait beaucoup
Ouais.
trop tard, tu as répondu un petit peu, savoir dire non, j'ai l'impression.
Exactement. Savoir dire non, c'est important. Encore plus en entreprise aussi. Mais tu n'es pas obligé de dire non, non tout de suite. Mais tu peux dire, alors je ne ferai pas tout de suite, je pourrais le faire la semaine d'après. Ou encore quelque chose qui est encore plus simple. Et ça, moi, j'ai appris à le faire parce que tu vois, je m'occupe du CRM chez Eloquent. Donc, on a un CRM que je dois entretenir, mettre à jour, etc. Et c'est vrai que si tu es tout le temps disponible, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais qu'il y a l'équipe commerciale qui vient me voir par chat. Hey, est-ce que tu peux me faire ce rapport? Tiens, comment je peux faire ça, etc. Et le problème, c'est que si tu commences à répondre tout de suite aux sollicitations, moi, je voyais les commerciaux, j'étais en train de bosser, tout, 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 appel, appel. Non, mais déjà, je ne réponds pas. Par défaut, si on ne m'a pas demandé est-ce que tu es dispo, maintenant je ne réponds plus. Et quelque part, en fait, si tu dis attends, bah, je suis occupé, je suis en réunion, je verrai ça tout à l'heure, ah, je peux le faire, ça c'est simple, ça c'est compliqué, machin, etc. Tu peux filtrer les choses et finalement tu te rends compte qu'il y a certains problèmes qui se gèrent tout seul. Voilà, et tu n'as plus besoin en fait d'aller les gérer. Donc, essaye de pas de résister à l'immédiateté parce que tu as vraiment une tendance avec les outils à cette immédiateté et en fait ça vient te perturber dans ton travail, sauf qu'en fait tu as besoin de travailler en fait dans le calme sur la durée. Et je pense qu'en fait c'est moi quand j'avais vraiment beaucoup de travail, j'essayais de travailler comme ça par plage et éviter de me faire déborder et éviter bah, d'aller se balader sur les réseaux sociaux, sur tel truc, essayer de désactiver un petit peu le chat et tout ça parce que mine de rien si tu fais ça. En fait, c'est les autres qui viennent mettre de ton agenda. Toi, il n'y avait pas longtemps, j'avais comme ça une personne qui me contacte sur LinkedIn et qui me dit, tiens, j'aimerais discuter avec vous pendant un quart d'heure sur tel sujet, machin, avoir votre point de vue. Je dis, ben non, ben, je suis désolé, là, je n'ai pas le temps, je suis à 100%, etc. Et la personne avait du mal à comprendre que je n'accepte pas de prendre du temps à discuter avec lui sur son projet. Elle dit, ben non, mais je ne veux pas, je ne veux pas que d'autres prennent possession de mon agenda. Mon agenda, c'est mon temps. Voilà, donc c'est vraiment se dire que c'est ce que je dis à ma fille, en fait, parce qu'elle aime bien tout ce que, comme tous les ados, hein, tout ce qui est tablette, téléphone et tout ça. Et je dis, mais attends, TikTok, ils te volent ton temps. Netflix, ils te volent ton temps. Et donc, en fait, attention à ces voleurs de temps aussi qui sont en entreprise.
Ouais, c'est sans doute aussi l'un des enjeux hyper. On a parlé de l'IA là, mais c'est aussi un de ces enjeux vraiment importants. L'IA va te permettre de gagner du temps, mais tu vas le perdre sur d'autres choses que tu as citées. Il reste deux questions. Est-ce qu'il y a une compétence que tu aurais souhaité développer plus tôt? Et est-ce qu'il y a une compétence que tu aimerais avoir si je te donnais une baguette magique?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, je me rends vraiment compte que le métier de marketeur, comme le métier de commercial, il évolue sans cesse. Et là, les compétences que j'ai maintenant, si je les avais eues il y a 10 ans ou il y a 20 ans, j'aurais explosé le marché. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, il faut être tout le temps en veille, il ne faut pas comment dire, s'endormir sur ses lauriers. Et il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, apprendre, être curieux, tester, tester, tester. Et c'est vrai que chez nous, je vois, il y a quelques commerciaux comme ça qui sont à tester, qui sont à essayer des machins, etc. Et pas être renfermés. Et je pense que l'environnement économique nous arrive vraiment, qui va être très compliqué dans les horizons, les années à venir, et ben en fait, il faudra avoir cette culture d'être capable de changer. En fait, la résilience, ça va être essentiel. Alors maintenant, ce que j'aime pas, c'est que le mot résilience, il est tombé un peu dans le truc un peu bateau, comme la bienveillance et tout ça. Mais je dirais, en fait, c'est l'antifragile. Et ça, en fait, ça va être une compétence, mais qui va être clé dans les années à venir. Parce qu'en fait, moi, je le dis à mes petits élèves que je forme en marketing chaque année, j'en ai formé 250 là, cette année. Et ben en fait, malheureusement, vous allez aller dans des univers de crise en crise en crise en crise. Et vous allez avoir des moments où ça va se passer bien, crise, moment bien, pas, crise. Moi, quand j'étais étudiant, 30 ans de ça, et ben mes profs me disaient, ouais, voilà, vous allez, comment dire, vous allez avoir des périodes où il y aura du chômage, etc. Là, moi, je leur dis, c'est même pas des périodes où il y aura du chômage, c'est vous allez en fait passer de système de crise en crise. Et donc, il faut arriver sur un système antifragile. Un système antifragile, qu'est-ce que c'est? En fait, un système fragile, c'est il résiste au bout d'un moment, mais il casse. Par exemple, tu as un gobelet en plastique. Bim, il tombe par terre et il casse. Après, tu as les systèmes durs. Un système dur, c'est un gobelet en plastique ou en verre. Et ben à ce moment-là, tac, il tombe par terre, il tient bien jusqu'au moment où il tombe de trop haut et il se casse ou il est trop fragile ou il résiste pas à la douleur, à la chaleur, etc., etc. Et puis l'antifragile, qu'est-ce que c'est? L'antifragile, en fait, c'est un système qui va faire en sorte de s'améliorer au fur et à mesure des problèmes. Et en fait, un commercial va devoir en fait avoir cette mentalité-là et donc se dire, bah tiens, y aura des problèmes, je devrais en fait les accepter, si possible les prendre en positif, c'est ce que j'essaye de faire. Tu prends le positif de ce truc-là qui t'arrive et tu dis, bon, ok, d'accord, il y a un problème là-dessus. Par exemple, tiens, tu viens là, par exemple, on a eu le cas de figure, on avait perdu une très grosse affaire. Enfin, voilà. On avait un gros client qui, un gros prospect qui est dans le domaine du transport ferroviaire. Il n'y en a pas 50 en France. Et en fait, voilà, il y avait trois gros dossiers, trois deals. Et en fait, ben, c'était avec un de mes collègues. Et puis, voilà, le premier dossier, on arrive au deuxième. Putain, merde, et bien sûr que dans la vente, t'as pas de deuxième. C'est que la première classe qui compte. Et donc, le truc, c'est de se dire, mais. Et je discutais avec lui, et puis il me disait, au moins j'ai appris un truc avec cet appel d'offres, je sais maintenant comment il faut faire. Et le deuxième appel d'offres, taf, gagné. Troisième appel d'offres, paf, gagné. Parce qu'en fait, il a su prendre en compte le problème. Il n'a pas dit juste, ah putain, on a perdu le dossier, les concurrents, ils sont bons, ou machin, etc. C'est comprendre pourquoi on a réussi. Ce système antifragile va être essentiel dans l'environnement économique à venir. Donc, ça, c'est cette compétence, pour moi, c'est ça, c'est être capable d'être résilient, comprendre ses erreurs et passer en mode antifragile. Et s'il y a vraiment, si vous n'êtes pas convaincu de ça et que vous dites bon, bah, pourquoi je comprends pas, je vous conseille d'aller regarder quelques vidéos de Jean-Marc Jancovici, qui exprime bien l'univers dans lequel on va se avancer dans les années à venir. Et ça nécessitera de la part de tout le monde, commerciaux y compris, d'être beaucoup plus efficace parce que tu auras moins d'opportunités. Moins de prospects, ça va être beaucoup plus dur. Et cette fois, le choix, ça va être pas entre moi et les concurrents, mais c'est entre moi et ne rien acheter, moi et une toute autre solution. Et ça va nécessiter vraiment un effort commercial, une capacité à convaincre, à personnaliser, qui sera vraiment essentiel, essentiel, essentiel. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'invite à faire. Voilà.
Ok. D'ailleurs, ça me fait penser à une question qui est importante à poser, mais pas évidente quand vous perdez un deal. C'est qu'est-ce qui fait que vous ne collaborez pas avec moi? Et ça, c'est une question.
Ah, nous, on essaye de le faire avec
Ouais.
les prospects qu'on a loupés, mais c'est pas évident parce
C'est pas
que
évident.
parfois, ils te veulent pas. Tu leur
Ben
proposes un
non.
rendez-vous, ils veulent pas. Mais c'est vraiment instructif parce que ça te permet de savoir est-ce que c'était l'offre, est-ce que c'est la proposition, est-ce que c'était le service,
C'est
est-ce que c'était
ça.
la manière de faire. Quel était le débrief? Toi, on a perdu un gros deal il n'y a pas longtemps. On a eu un débrief. Et c'est vrai que ben, la boîte nous a quand même accordé une demi-heure de débrief. Elle nous a dit, ben voilà, là, vous
C'est
étiez
bien.
bon, là, vous n'avez pas été bon. Et c'est vrai que tu comprends. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Bon, voilà.
Ok. Dernière question et après je te laisse aller déjeuner, Fred. Si tu pouvais inviter quelqu'un dans le podcast, tu me proposes qui?
Alors, je dirais Jean-Marc Jancovici, bien entendu, mais c'est hyper compliqué. Mais je pense que tout commercial et même chef d'entreprise, tout le monde devrait écouter au moins un de ses discours récents sur le futur qui nous attend. Ça, c'est vraiment important parce que on se rend pas compte. C'est comme l'intelligence artificielle. On a parlé du chatbot. Toi, il y a une multiplication par deux des capacités des chatbots tous les ans ou tous les 2 ans. On veut dire. Par deux tous les 2 ans, on va dire, grosso modo. Voilà, on multiplie par deux. Et donc, tu as vraiment des gaps qui se font et ça va tellement vite qu'en fait, on n'est pas capable, nous, humains, d'anticiper ça parce qu'on est sur un temps long différent. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on va pas se rendre compte que notre manière de travailler va changer avec ces nouvelles technologies. Donc voilà, donc et pareil pour l'environnement climatique et énergétique, eh ben on se rend pas compte que nos conditions de travail qui sont pour l'instant hyper agréables vont changer. Donc il est important de prendre conscience de ça et anticiper. Mais bon, pour revenir à la vente, pour des choses qui t'intéressent un petit peu plus, à ce moment-là, je te conseillerais trois personnes qui sont vraiment intéressantes selon moi. Alors, le premier, en fait, c'est Guillermo Di Bisotto, qui a écrit plusieurs bouquins, C'est où qu'on signe. Tiens, d'ailleurs, je l'ai là. Hop, ici. Hop. C'est où qu'on signe, qui est paru il y a un mois aux éditions Erol, qui est un bouquin sur le traitement des objections, qui est assez intéressant et qui a un discours assez... bon, c'est clair, j'ai pas iconoclaste, mais je trouve qu'il y a un discours qui est sans prise de tête. Par exemple, tu vois, à se dire quand tu appelles au téléphone, est-ce que tu dois demander ou pas aux personnes pourquoi tu appelles. Et c'est vrai que lui, et c'est ce qui a été prouvé par des outils comme Gong, c'est vrai qu'il vaut mieux que tu dises pourquoi tu appelles directement au téléphone. Voilà. Voilà. Donc le deuxième, en fait, Emmanuel Faure aussi, que j'aime pas mal sur la partie écriture. Il a écrit un bouquin aussi sur la prospection. Et c'est vrai que la prospection est souvent quelque chose qui est assez difficile chez les commerciaux parce que moi, je vois chez nous, c'est un vrai métier la prospection parce que c'est dur. Tu te prends vraiment des taquets. Et donc, il faut vraiment avoir une mentalité et accepter ça, pas comme une claque, mais voilà, je sais pas, comme un jeu, mais presque. Et le dernier, c'est Steph Landy, qui est assez intéressant. C'est un marketeur suisse et qui a écrit plusieurs bouquins sur la vente et le marketing, dont le psychomarketing. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que pour lui, en fait, c'est la persuasion qui est un petit peu mis en avant chez Robert Cialdini. C'est comment, en fait, tu peux créer un contexte qui va faire en sorte que le prospect va vouloir, en fait, te contacter, toi, plutôt qu'un autre, et ça, déjà, à moitié convaincu. Voilà. Et je ne sais pas si tu l'as vu également, un classique, Stéphane Caron, qui a écrit, je crois qu'il a écrit 400 bouquins, Prospecte et lève-toi, je ne sais pas si tu as déjà interviewé.
Je ne l'ai pas interviewé encore.
C'est pas Nicolas Caron. Nicolas Caron, voilà. Ouais, Nicolas Caron. Okay. Et puis, tu as aussi Michael Aguilar, qui je trouve assez intéressant parce que Michael Aguilar, c'est surtout en fait qu'il est hyper bon sur la prise de parole. Et c'est vrai que quand il fait une petite préparation, une petite vidéo, c'est bien filmé, c'est tout nickel et c'est super impactant. Donc là, s'il y a 3-4 personnes, voilà, je te donnerai une petite top liste.
Ouais, alors Miguel Aguilar et Nicolas Caron, je leur avais proposé, mais ils ont une politique de pas forcément passer dans les podcasts d'autres personnes, puisqu'ils ont aussi des médias, des podcasts, des chaînes vidéo, YouTube, etc. Je relance l'invitation, hein, si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus.
Écoute, bon, Fred, moi, je pense qu'il faut, il faut accepter, en fait, d'aller vers la visibilité, puisque ce qui se passe, c'est que on va arriver vers une starification des produits, des services, comme on a une starification des musiques. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, dans la musique, si tu dis, si je te dis, quelles sont pour toi les meilleures stars de rap? Tu vas me dire qui?
Kanye West, Jay-Z.
Voilà. Donc en fait, voilà, tu as un top. Et en fait, dans la vente, maintenant, ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années, quand tu me demandais, mais quelle est la boîte que tu me conseilles pour, pour mettre en place un logiciel, les gens diront, je connais le truc, le gars à côté de chez moi, qui a fait appel à machin, etc. Maintenant, si tu dis, est-ce que tu peux me dire quelle est la boîte sur laquelle je devrais acheter des fenêtres ou je ne sais quoi, les personnes vont avoir en mémoire une top liste. Et cette top liste, c'est pas forcément ça peut être le gars d'à côté, mais ça peut être aussi une publicité, ça peut être un truc qu'ils ont vu ailleurs, à gauche, à droite. Et donc, en fait, on arrive comme ça à une concentration des références dans un domaine d'activité qui va être très, très petit. Et si tu n'es pas, en fait, dans la top liste des personnes référentes dans ce domaine, tu ne seras pas shortlisté. C'est comme un commercial. Si ton entreprise elle n'a pas une image de marque, une visibilité dans tel secteur, tu galères. Si tu es dans le CRM et que tu sais, le CRM, il y a Salesforce, il y a nos CRM, il y a machin. Si tu es dans la top liste, c'est vachement facile. Si tu n'es pas dedans, c'est hyper compliqué. Voilà.
Ouais. Ouais, bah effectivement, et donc là, le contenu, ça en participe. C'est aussi pour ça que j'ai des sponsors podcast, hein, c'est que, comme tu l'as dit, des CRM ont envie d'être visibles sur des contenus de niche. Moi, je parle à des commerciaux, donc forcément, ils ont envie d'être entendus. Mais c'est un travail de longue haleine, il faut être sur les podcasts, sur LinkedIn, sur les réseaux, etc.
Bah, le chat GPT va peut-être t'aider.
C'est ça, c'est ça. Ben en tout cas, Fred, merci beaucoup pour cet épisode. Je pense que ça va donner plein d'idées à plein de gens dans la vente. Et si on veut te contacter, on te contacte sur LinkedIn, c'est ça?
Exactement, Frédéric Cadevette sur LinkedIn, avec grand plaisir pour échanger et discuter sur la vente, le marketing, etc.
Ouais, et n'hésitez pas à prendre le bouquin Growth Hacking. Là aussi, vous avez beaucoup de tips et d'idées pour gagner du temps. À bientôt, Fred!
Bye bye.